Voilà, mes amis, on va commencer notre cours, j'avoue, avec beaucoup de tristesse et de joie en même temps. Le seul cours qui tient encore. J'avais, comme beaucoup d'autres enseignants, énormément de cours en français, en hébreu. Ils sont tous tombés. Vraiment, c'est incroyable, c'est le seul cours qui tient, c'est le cours de chez les Quins. Je précise bien de chez les Quins, parce que je pense que de là-haut, ils font tout pour dire « mon cours, il ne s'arrêtera pas ». Et vraiment, c'est un cours à leur mémoire. Mais vraiment, j'ai le sentiment, parce que c'est incroyable. J'ai des cours en hébreu avec des jeunes, ils ne viennent plus. J'avais des tas de cours en hébreu, en français, etc. Tous les cours sont tombés. Puis personne ne sort. Et le cours des Quins, il tient. Et grâce à Dieu, il y a du monde. Alors, on n'a aucun doute que monsieur et madame Quin sont directement aux commandes. Et ils disent, notre cours, il tombera pas. Ça, c'est sûr. Et...
Je m'efforce d'informer vos auditeurs pour qu'ils sachent de venir ou pas venir.
Ah, oui, je sais, bien sûr, vous faites un travail extraordinaire, monsieur Salomon. Mais moi aussi, quand, par exemple, les cours que j'ai essayé de reprendre, j'ai envoyé des dizaines de WhatsApp à des dizaines de personnes. Les gens viennent plus. Puis les gens, ils se disent, de toute façon, maintenant, les rabbins sont des zoomers. Voilà, ils ont la bonne zoomer. Puisque maintenant, de toute façon, tous les cours, c'est sur le net. Ils disent, pourquoi se déplacer? On regardera le cours sur le net. Donc maintenant, il ne faut plus dire un rabbin, il faut dire un zoomer. Voilà. Et quoi qu'il en soit, on va commencer notre cours d'aujourd'hui, encore une fois, à la mémoire de monsieur et de madame Quin. Et Bezrat Hashem, que le maître du monde fasse que ce cours puisse continuer. C'est vraiment, j'arrive pas à y croire quand je vois, grâce à Dieu, quand même pas mal de monde. Bon, en bas, il y a des gens qui font du bruit. Ça serait peut-être la peine de leur dire qu'on a un cours ici et qu'ils arrêtent d'hurler parce qu'ils n'ont aucune raison d'hurler en bas. Non, c'est mieux de leur dire directement en descendant. Voilà. Alors, on est aujourd'hui dans une paracha très importante. Je dis toujours les mêmes phrases chaque année depuis des décennies. Quand on arrive à parashat Lech Lecha, évidemment, l'agdama, l'introduction, c'est la paracha qui véritablement débute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Dans cette paracha, en vérité, on a des allusions plus claires encore que cachées à toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire de l'humanité. Et j'espère pendant le cours montrer quelques exemples, mais ce n'est pas vraiment le sujet du cours. On a des allusions aux quatre exils, ça on le sait dans notre paracha. On a des allusions à la guerre de Gog, les quatre rois qui attaquent Israël. On a des allusions absolument incroyables dans toute cette paracha qui contient vraiment toute l'histoire du peuple juif. Mais je ne sais pas si on arrivera à tout voir. Je voudrais commencer par une notion, malgré tout, importante. Et on va commencer par la fin. La fin de la paracha. Comme vous le savez, à la fin de la paracha, Avram et Sarai changent de nom. Avram va s'appeler Avraham. On lui rajoute un « et ». À Sarai, on va lui enlever le « yud » et on va lui rajouter un « et » aussi. Quel est le secret de ces deux « et » ? Dans toute la paracha, il y a de nombreuses allusions, dès le départ, comme l'expliquent nos commentaires, comme l'explique Rashi, des allusions au fait que Avraham changera de nom. Par exemple, au tout début de la paracha, Hachem lui dit « Va'agadla shmecha »« Je grandirai ton nom ». Rashi dit « C'est une allusion des décennies à l'avance, puisqu'à cette époque-là, il avait 75 ans, et son nom a changé lorsqu'il avait 100 ans, donc 25 ans plus tard ». Et Hachem lui dit, je grandirai ton nom, mais sans explication. Rashi nous dit que c'est une allusion au fait qu'il lui rajoutera une lettre à son nom. Au lieu de s'appeler Avram, il s'appellera Avraham. Après, il y a encore une autre allusion dans la paracha. Quand Avram sombrait plus ou moins dans un état de tristesse, parce qu'il voyait qu'il avançait en âge et qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Un jour, il osera presque dire à Hachem, mais attends, tu me promets, mais pour l'instant, je suis complètement seul. Il était dans sa tente. Et Hachem lui dit, sors de ta tente. Et bon, j'explique tout de suite après les commentaires, mais il y a des allusions très claires dans le verset. Hachem l'élève au-dessus des astres et des étoiles, c'est-à-dire il l'élève au-dessus de la nature. Et il lui dit, toi qui es en vérité un très grand astrologue, on sait qu'Abraham était aussi un très grand connaisseur de l'interprétation de ce qui se passe au niveau de la nature et au niveau des astres, au niveau des étoiles, etc. Hachem lui dit, tu as raison, effectivement tu as vu et tu as compris qu'Abraham et Sarah ne pourraient pas avoir d'enfants, mais moi je vais rajouter une lettre à votre nom, tu t'appelleras Abraham et elle s'appellera Sarah, et en changeant de nom, vous n'êtes donc plus les créatures qui sont d'après la nature dans une situation où vous ne pourrez pas avoir d'enfants, vous serez dans une autre situation où vous pourrez avoir des enfants. Et la Torah précise que Hachem lui dit « Avet Hashamayma, regarde le ciel ». Mais en hébreu biblique, le mot « Avet » signifie « voir du haut vers le bas ». Le « Avit » c'est « voir du haut vers le bas ». Et de là, Rashi explique que Hachem l'a élevé au-dessus de la nature et lui a dit « Selon les règles de la nature, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais je vais t'élever au-dessus des règles de la nature et à ce moment-là, tu pourras, oui, avoir un enfant. » Et en même temps, il lui fait une allusion dans le fait qu'il lui rajoutera une lettre à son nom. Alors, c'est la même lettre, c'est deux « et », mais je vais expliquer justement c'est quoi le secret de ces deux « et ». On en a déjà parlé dans différents cours, mais je veux expliquer ça d'une manière aujourd'hui plus profonde encore. Certains enseignements, vous les avez déjà entendus, mais on va avancer malgré tout. C'est quoi ces deux « et » ? Les deux « et » sont tout simplement les deux « et » qui sont dans le nom divin. Comme on le sait, le nom divin qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, Yud E, après un Vav et après à nouveau un E. Il y a deux fois donc la même lettre dans le nom divin, le premier E et le dernier E. Selon les secrets de la Torah, je vais le dire d'une manière très simple, je vais d'abord le dire dans le langage, si vous voulez, des secrets, mais après tout de suite je le descends et je l'habille dans un langage que même un enfant pourrait comprendre. Les deux E font allusion à deux attributs divins, deux sphirotes, le premier « e » fait allusion à la « bina » et le dernier « e » fait allusion à la « malchut ». Et dans un langage extrêmement simple, la « bina » fait allusion aux mondes qui sont au-dessus du nôtre, donc qui sont complètement au-dessus des règles, des lois et des limites de la nature dans laquelle nous vivons, alors que la malchut, c'est ce monde dans lequel, d'une certaine manière, on est soumis et limité par toutes les règles et toutes les limites que nous vivons à l'intérieur de ce monde. Et donc, ces deux « et », pourquoi ? Puisque le premier « et » fait allusion à la bina, qui fait allusion, comme on le sait, la bina du bas vers le haut, c'est la huitième sphira, puisqu'on a malchut, yesod, od, netzar, tiferet, Gvura, Chesed, sept sphirotes, qui sont les sept sphirotes du bas qui correspondent aux sept jours de la création. Premier jour, Chesed, par rapport à Abraham. Deuxième jour, Gvura, par rapport à Yitzhak, on va en parler. Jusqu'au dernier jour, septième jour, Shabbat, par rapport à la Malchut. Et quand on continue, on arrive à la huitième sphira. Ça va être lié à la Brit Mila, qui est le huitième jour. On arrive à la huitième sphira, qui est déjà au-dessus de ce monde, puisque ce monde a été créé en combien de jours ? En 7 jours. Et comme j'ai déjà expliqué très souvent, le chiffre 7, on le retrouve dans l'espace-temps aussi. L'espace et le temps. Le temps, 7 jours. Et l'espace, eh ben, très simple, si je suis ici, d'accord, dans un endroit, et que je vais particulariser, bon je sais pas comment on dit en français, mais vous avez compris, l'endroit dans lequel je me trouve, d'accord ? Par rapport à moi qui suis ici, si je regarde devant moi le sud, d'accord ? L'ouest, l'est, le nord, le haut et le bas. Et moi qui suis au centre. Donc, 7 points. Le chiffre 7 représente ce monde. Les 7 jours au niveau du temps, les 7 points par rapport à celui qui est défini qui est au centre, par rapport à l'endroit. Donc, le temps et l'espace, c'est-à-dire notre monde, sont régis par le chiffre 7. Par contre, le chiffre 8, qui est la Bina, c'est déjà une force qui est au-dessus de ce monde. Et comme on verra dans quelques instants, c'est la raison pour laquelle, au moment où Hachem change le nom d'Abraham et de Sarah, à ce moment-là, il leur ordonne la Brit Mila le huitième jour, par rapport justement à une force qui est surnaturelle. Donc, pourquoi maintenant, puisque la question était, question que posent nos commentaires, puisque la Bina représente un monde qui est au-dessus d'une autre, un monde qui n'est pas lié, qui n'est pas emprisonné à l'intérieur des règles et des lois que nous subissons dans ce monde. Et la Malchut, elle représente ce monde. Alors pourquoi c'est la même lettre ? L'une des réponses est parce que le but est d'unir ces deux mondes. Le but est d'unir les deux mondes, c'est-à-dire qu'en vérité, un homme authentique est celui qui arrive à vivre en même temps dans ce monde et en même temps attacher ce monde à des forces qui sont au-dessus de ce monde. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité des milliers de fois. Parce qu'on le sait, généralement, le monde, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, ça j'ai déjà expliqué, mais c'est simplement l'introduction, est très schématiquement divisé en deux grandes catégories d'êtres humains. Les religieux qui ne sont que en haut, les laïcs qui ne sont que en bas, mais c'est très dur de trouver un homme qui arrive en même temps à être investi dans ce monde et en même temps qui est lié de toutes ses forces à des forces qui sont au-dessus de ce monde. C'est très très dur de faire cette union. Et c'est pour ça que la Torah a choisi d'appeler ces deux mondes, qui apparemment sont très différents, de les appeler par la même lettre, pour dire que le travail essentiel de l'être humain authentique, c'est de lier le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Maintenant, comme on va le voir, on avance doucement. Au niveau de l'homme et de la femme, où se trouve le premier « et où se trouve le deuxième « et ? Alors, comme on le sait, l'homme incarne le premier « et la femme incarne le deuxième « et ». Pourquoi ? Parce que, comme on le sait, bon, aujourd'hui c'est très difficile parce qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y a que des déguisés. Mais dans la véritable nature des choses, un homme est beaucoup plus théorique, beaucoup plus au niveau de l'idéal, beaucoup plus au niveau des idées, et la femme est beaucoup plus au niveau de l'action, de la réalisation, de la concrétisation. Alors, c'est vrai au niveau homme-femme, mais c'est aussi un schéma fondamental. Il y a des êtres humains qui sont beaucoup plus théoriques, il y a des êtres humains qui sont beaucoup plus pratiques. Un a une dimension plus masculine et l'autre a une dimension plus féminine. Maintenant, quand on pousse jusqu'au bout, on dirait qu'un être très spirituel, et donc c'est le premier « et un être beaucoup plus matériel, c'est le deuxième « et ». Vous comprenez maintenant que quand Hachem a créé Adam et Ève, il a donné à Adam la dimension du premier « et il a donné à Chava la dimension du deuxième « et ». On va voir dans quelques instants l'union des deux, qu'est-ce que ça produit, vous allez voir, c'est merveilleux. Mais on avance doucement. Et ils devaient avoir un enfant ensemble, mais entre-temps est venu le Nahash. Le Nahash qui représente le Yetzer Hara, les forces du mal. Et quand le Nahash a compris que si Adam, qui est le Et d'en haut, et Chava, qui est le Et d'en bas, s'ils arrivent à s'unir, ils vont créer une force qui va empêcher le Nahash de pouvoir dominer le monde. Parce que depuis la faute de Adam Harishon, qui domine le monde ? Le Nahash. C'est lui qui domine le monde, puisque c'est le mal qui domine le monde, c'est pas le bien qui domine le monde. Celui qui a le pouvoir, l'argent, la politique, etc., c'est entre les mains des méchants, c'est pas entre les mains des gens bien. Et donc, le Nahash voulait s'accaparer le monde, et il a empêché l'union positive entre Adam et Chava. Vous savez tous, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, que cette histoire de l'arbre et de la pomme défendue, etc., tout ça, ce sont des métaphores et des codes que seuls les idiots croient à la lettre. D'accord. Le Ari HaKadosh nous explique qu'en vérité, l'histoire de ne pas manger du fruit, c'est de ne t'unis pas à ta femme avant la fin du Shabbat. Ça veut dire que ça, c'est l'explication du Zohar, du Ari HaKadosh, repris par tous les maîtres d'Israël. La Torah, dans son langage codé, pourquoi elle parle d'un arbre avec des fruits ? Il y a des raisons aussi, mais je ne peux pas tout expliquer. Mais en vérité, explique nos maîtres, ceux qui ont véritablement compris, qui ont été capables de décrypter les secrets de la Torah, qu'en vérité, ils ont été créés le dernier jour de la semaine. Hachem leur dit, vous ne vous unissez pas pour faire l'enfant que j'attends de vous avant de passer le Shabbat. Parce que le Shabbat, vous allez recevoir des forces spirituelles énormes qui vont vous permettre, quand vous allez vous unir Motsé Shabbat, de pouvoir faire naître l'enfant qui va d'une certaine manière terminer le travail que j'ai commencé, la réparation du monde. C'est pour ça que vient le Nahash et il lui dit, mais mange du fruit déjà maintenant aujourd'hui, mange du fruit vendredi, qu'est-ce que tu as besoin d'attendre Motsé Shabbat? C'est-à-dire décrypter, le Nahash a mis dans la tête de Adam et Chava de s'unir avant même de rentrer dans le Shabbat. Et à ce moment-là, quels sont les enfants qui sont sortis? D'accord? Deux tarés, Caïn et Avel. Pourquoi deux tarés, Caïn et Avel? Caïn qui est tout en bas et Avel qui est tout en haut. Ça veut dire deux moitiés d'êtres humains, mais pas un être humain authentique. Et depuis, l'histoire fonctionne sur ce modèle où tu fais partie de ceux qui sont en bas, où tu fais partie de ceux qui sont en haut, avec toutes les nuances bien sûr. Mais un homme qui arrive à être en même temps en bas et en haut, on n'en a plus jusqu'à la délivrance finale, jusqu'au Mashiach. Alors, je reviens maintenant. On va essayer de comprendre pourquoi le Nahash voulait absolument empêcher l'union entre le « et » d'en haut et le « et » d'en bas, entre Adam et Ava et Chava. Pourquoi il voulait absolument empêcher cette union et qu'elle ne se fasse pas comme elle devait se faire, c'est-à-dire Motsé Shabbat, après que l'un et l'autre soient remplis de la sainteté du Shabbat, des énergies spirituelles positives du Shabbat, et il les a poussés à s'unir le vendredi, ce qui a fait tomber toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Puisque, qu'est-ce que a causé cette union interdite? Que finalement, ils n'ont pas pu créer et mettre sur terre, et jusqu'au Mashiach, avec des milliers de nuances bien sûr, mais très schématiquement, jusqu'au Mashiach, on n'a pas un homme qui arrive à trouver l'équilibre parfait entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, et qui c'est qui en tire un avantage? Le Nahash. Pourquoi? Parce que le Nahash, c'est lui qui domine le monde. Et c'est ce qu'il voulait. Alors maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui se produit lorsque ces deux « et » arrivent à s'unir dans le bon sens du terme. Eh bien, il va falloir attendre 2000 ans depuis la faute de Adam jusqu'à ce que Avraham et Sarah reçoivent chacun le « et ». Ça veut dire que Avraham, comme on le sait, nos maîtres nous l'expliquent, est le Gilgoul de Adam Arishon, Sarah est le Gilgoul de Chava. Ils sont revenus, il a fallu attendre un long, long, long moment avec tout ce qui s'est passé, le déluge, la tour de Babel, les quantités de catastrophes, etc. Un long, 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 long détour jusqu'à ce qu'ils arrivent eux-mêmes. Il va falloir attendre qu'Avram ait 100 ans et elle ait 90 ans. Ils reçoivent chacun le « et », c'est-à-dire Hachem leur dit « maintenant vous êtes dans une situation où vous pouvez à nouveau essayer de faire 2000 ans après, avec 2000 ans de retard, faire ce que normalement Adam et Ève auraient dû faire s'ils avaient attendu Motsé Shabbat, et malheureusement ils se sont unis le vendredi. Et donc, recommencez maintenant, reprenez en main la reconstruction du monde. Bien sûr, ça ne va pas se faire en une heure ni en deux jours, mais ils ont lancé la reconstruction du monde. Malheureusement, comme on le sait, si le Ham Israël n'avait pas fauté des centaines de fois et des milliers de fois, la délivrance serait venue beaucoup plus tôt, mais au moins le processus est mis en marche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sort de l'union entre Avram et Sarah? Comment il s'appelle? Yitzhak. Avram et Sarah. Yitzhak. Et quelle est la Mida qui est représentée par Yitzhak? Avram représente le Chesed. Yitzhak représente la Gvura en hébreu. Gibor. C'est quoi un Gibor, même en hébreu moderne? Un Gibor, un fort. D'accord? Fort dans le sens pas uniquement physique, mais dans le sens mental, moral, etc. C'est l'une des raisons, explique-nous, pour laquelle on l'appelle Yitzhak, qui est un futur, celui qui rira. Pourquoi il rira? Parce que grâce à la qualité de Yitzhak, tous ceux qui vont avec cette qualité, que je vais expliquer dans quelques instants, parce que faut-il encore expliquer c'est quoi la Gvura, tous ceux qui vont sur le chemin de Yitzhak, un jour riront, ça veut dire riront de leur victoire d'avoir vaincu toutes les forces du mal. Oui.
C'est pas la rigueur?
C'est la rigueur aussi, mais la rigueur c'est un aspect de la Gvura. La Gvura, si vous voulez, c'est la force, le courage, la détermination, la volonté, toutes les forces qui permettent à un homme d'avancer, de ne jamais reculer. Aussi la rigueur, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'un homme qui veut avancer, il a besoin d'être très rigoureux. Parce que comme on le sait en français mieux que dans n'importe quelle langue, trop bon, etc. Et donc, on a besoin de rigueur, parce que si tu es trop gentil, trop bon, tu ne pourras pas avancer, tu vas te faire bouffer. Donc, il y a des moments où il faut savoir être... Oui. Parce qu'il fallait attendre le Shabbat. Non, mais n'oublions pas que là, il s'agit d'Adam et Ève qui avaient un projet de terminer la création. Asher bara Elohim la'asot. Ils devaient terminer le monde et on pourrait dire d'une certaine manière, le monde avait été créé au niveau de son brouillon par Hachem et le propre devait être créé par Adam et Chava. Et donc, ils avaient une mission, ils devaient attendre le Shabbat de recevoir, puisque le Shabbat, on reçoit des forces spirituelles énormes, et se remplir de ces forces qui leur manquaient pour que l'union puisse produire justement un homme du type Yitzhak, et qui en vérité aurait été le Mashiach. Maintenant, vous comprenez pourquoi, bien que j'ai toujours pas expliqué ce que c'est la Gvoura, pourquoi, je l'ai rapporté très souvent même devant vous, le Balatouri m'explique que le Mashiach s'appelle Mashiach Ben Yitzhak. Et les commentaires posent une question, ça veut dire quoi Ben Yitzhak? Si déjà, nous les Bnei Israël, on s'appelle Bnei Israël, c'est-à-dire Bnei Yaakov. Yaakov comme deuxième nom Israël. Pourquoi Ben Yitzhak? Et les commentaires expliquent pourquoi, parce que le Mashiach sera le modèle parfait de Yitzhak, qui est la Gvoura. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, et ça je crois que je ne vous l'ai jamais expliqué en tous les cas comme je vais le faire aujourd'hui, c'est quoi la Gvoura, c'est quoi un Gibor? Alors j'ai traduit à notre ami la volonté, la détermination, la puissance, la force, le courage, ne jamais baisser les bras, ne jamais reculer, ne jamais sombrer dans le désespoir. Comme d'ailleurs le modèle de la Gvoura, c'est le roi, pas le roi Henri IV sur le roi, c'est-à-dire le roi tel que l'explique nos maîtres, Poretz Geder la Sotoderer, il défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. Ça veut dire que c'est pas seulement le roi dans le sens français du terme, roi. C'est-à-dire que quand tu vois un homme qui, malgré tous les obstacles, ne recule jamais, défonce les obstacles, avance et atteint le but qui s'était fixé, il a une dimension royale en lui, c'est-à-dire il a la malroute en lui. Ça peut être chez le plus simple des hommes aussi. Mais en tous les cas, ça c'est la véritable définition d'un véritable dirigeant. Maintenant, c'est quoi la Gvoura? Alors, nos maîtres donnent une explication. Mais une explication que tout le monde connaît quand je vais la dire. Mais l'explication, c'est déjà beaucoup plus complexe. Nos maîtres disent « Ezeu Gibor a Kovesh et Yitzro ». C'est quoi le Gibor? Celui qui « Kovesh et Yitzro ». Yitzro, c'est le penchant du mal. Qu'est-ce que veut dire Kovesh? Celui qui arrive à conquérir,
maîtriser,
à soumettre, mais je préfère le mot maîtriser, qui c'est le meilleur mot en traduction moderne et française, celui qui arrive à maîtriser son Yetzerara, son mauvais penchant. Et nos maîtres posent une question fabuleuse. Ça veut dire quoi maîtriser? Quand tu maîtrises quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Il est toujours là, mais tu le maîtrises. Pourquoi nos maîtres ne disent pas « Ezeu Gibor, Mishe Mechassel et Yetzerara » celui qui élimine le Yetzerara, celui qui annule le Yetzerara. Apparemment, tel qu'on le comprend malheureusement faussement, on nous demande d'annuler le Yetzerara. Non, nos maîtres disent non. Tu n'annules pas le Yetzerara, tu le maîtrises. Ça veut dire quoi? Alors, les commentaires des commentaires posent une question, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est toujours là, mais je ne le laisse pas prendre le dessus sur moi. Et vous allez voir, le rapport avec la Brit Mila, c'est de la folie. C'est que quand on comprend les choses, même d'une manière simple, et qu'on arrive à la décrypter, des océans de lumière se dévoilent. Mais dans quelques instants, je vais expliquer. Donc, maîtriser l'Yetzerara. Et les commentaires, de ces commentaires, posent une question, puisque les commentaires, il y en a dans chaque génération. Donc, les premiers commentaires ont dit, ça veut dire maîtriser le Yetzera et non l'annuler. On ne te demande pas d'annuler le Yetzera, on te demande de le maîtriser. Et d'autres commentaires viennent et posent la question sur ces commentaires, mais ça veut dire quoi? Alors, entre autres, certains grands, comme le Balatania et d'autres, expliquent quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils disent, si tu es quelqu'un qui vit dans un monde spirituel du matin au soir, d'accord? Est-ce que tu es confronté à toutes les difficultés de ce monde? D'accord? Non. Ok. Très bien. Si tu ne fais pas de l'argent, tu n'auras jamais une tentation d'être un voleur. Si tu restes dans ta yeshiva ou dans ton église toute la journée, tu risques pas d'avoir une secrétaire qui a le dos nu. Très bien. Et etc., etc. Donc, si tu es enfermé toute la journée et tu es avec le bon Dieu toute la journée, tu as du Yetzerara. Ben non, et comment tu veux qu'il t'attaque, le Yetzerara? Tu vois pas de femme, tu vois pas d'argent, t'as personne qui essaye de te faire tomber, tu es toute la journée enfermé dans ton ghetto spirituel, t'as plus de Yetzerara. Par contre, juste un instant, je termine, par contre, d'accord, si tu es un homme d'affaires, d'accord, je dis si, comme mettre Paris en bouteille, bien sûr, si tu es un homme d'affaires et que tu gagnes de l'argent, et que tu as des secrétaires qui ne sont pas forcément toutes religieuses, etc. Et que tu as des tas de gens qui viennent te voir pour te proposer des affaires sous la table, etc. D'accord ? Donc tu as le Yetzerara, mais tu le maîtrises, tu ne le laisses pas te monter et t'écraser. C'est ça, être un Gibor. Ça veut dire qu'être un Gibor, et c'est ça ce que nos maîtres nous demandent, c'est pas être quelqu'un qui est complètement soumis au Yetzerara, ça veut dire 100% des hommes aujourd'hui qui sont dans ce monde, ou être complètement éloigné du Yetzerara, 100% des gens, de ceux qui ne sont plus dans ce monde, mais qui vivent enfermés dans leur fantasme spirituel. C'est quoi un homme authentique? C'est quoi un Gibor? Je suis dans ce monde. Deux ou trois fois par semaine, j'ai quelqu'un qui vient me proposer une affaire un petit peu louche. D'accord? Je gagne beaucoup d'argent. Je suis entouré de gens qui ne sont pas forcément toujours très pudiques, etc. Mais je ne tombe pas. Entre parenthèses, j'ai déjà dit 1000 fois, quel est l'exemple le plus célèbre d'un homme qui était confronté à toutes les cochonneries de ce monde et qui n'est jamais tombé?
Yosef.
Dans le pays le plus corrompu, le plus débauché, le plus idolâtre, le plus corrompu de la terre, il n'est jamais tombé. Et je l'ai déjà dit, excusez-moi, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les Égyptiennes se mettaient sur leur balcon, lui le sifflaient et lui jetaient de l'argent, monte à la maison. C'est pas de moi, c'est dans le Midrash. Tellement il était beau, tellement il était... Il n'est jamais tombé une fois. Pas une fois. Ni dans l'argent, ni dans la débauche, ni dans l'idolâtrie. Ça, c'est un Gibor. Comment ? Quand il avait 17 ans, mais malgré tout, il n'est pas tombé. Il a failli, mais il n'avait que 17 ans. Avec Abraham Boutifar, il a failli, mais il n'est pas tombé malgré tout. C'est pour ça qu'après, elle l'a fait mettre en prison pendant 12 ans. Mais quoi qu'il en soit, on voit que être un Gibor, c'est être dans ce monde et ne jamais laisser les forces négatives de ce monde t'écraser. Parce que si tu n'es pas dans ce monde, tu n'es pas un Gibor. Si tu es dans ce monde et tu es écrasé, tu n'es pas un Gibor non plus. C'est qui le Gibor? Tu es dans ce monde et tu ne tombes pas. Alors, premier qui m'en trouve un, il a gagné. Il n'y a pas. Comment? Boger, je suis un adulte face à Hachem. Très bonne explication. Dans le mot Gvoura, il y a le mot Boger, qui veut dire que tu es un véritable adulte. Tu sais te prendre en main, tu es responsable. Et malheureusement, quel est le choix qu'a fait l'humanité depuis pratiquement avec toutes les milliards de nuances, mais globalement? Ou je suis un homme matérialiste et je laisse le Yetzerara me détruire, ou je suis un homme spirituel et je tourne le dos à ce monde. Mais trouver un homme qui est à la fois complètement investi dans ce monde et qui ne laisse jamais le Yetzerara lui monter sur la tête, c'est ça le Gibor. Maintenant vous comprenez, c'est quoi l'union des deux et? Et pourquoi le Yetzerara, pourquoi le Nahash il est venu, il les a empêchés de s'unir au bon moment? Il a dit, allez, unissez-vous maintenant. Pourquoi? Parce que le Nahash savait que s'ils s'unissent Motsé Shabbat, ils vont faire naître un Gibor qui va tenir le Nahash et qui va dire, ferme là ou je t'écrase. Et comme lui, il voulait récupérer le monde, ce qu'il est arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui, ben le Nahash est une métaphore, c'est une image, bien sûr. C'est tous les méchants de ce monde. Et ils n'avaient pas d'autre choix pour d'empêcher que naisse le Gibor. Il va falloir attendre 2000 ans pour que naisse nouveau un Gibor, c'est Yitzhak. D'où on voit que Yitzhak est un Gibor. Yitzhak est un Gibor, on le voit dans une... Bon, c'est vrai que la Torah ne le détaille pas trop, bien qu'on sait qu'il représente la Gvoura, mais c'est sa capacité à 37 ans de donner sa vie pour Hachem. Ça veut dire qu'il a peur de rien. Et c'est un soldat, c'est un combattant. Hachem me demande de donner ma vie pour lui, je donne ma vie pour lui. D'accord ? Comme malheureusement, chaque soldat qui fait partie des unités ultra, ultra particulières, qui sait très bien que quand il part en mission, il appelle ses parents, il appelle sa femme s'il est marié pour dire « j'espère que je reviendrai ». Parce que c'est pas évident. Comment ? Ah, il, mais bien sûr, cher ami, c'est extraordinaire votre question. Quand il est parti chez Avimeler, dans la bande de Gaza, il a planté là-bas alors que c'était la famine partout, il est devenu immensément riche au point que ils l'ont fichu dehors. Il est devenu immensément riche alors qu'on était en pleine famine, en pleine ci, en pleine ça. Et donc on voit qu'il avait une dimension matérielle dans laquelle il avait une réussite absolument incroyable. Il a retrouvé les puits de son père, qu'il a recreusé, etc. Donc il avait les deux dimensions. C'était un homme très spirituel, mais en même temps, sur le plan matériel, tout ce qui touchait se transformait en or. Et c'est pour ça que les Philistins l'ont mis dehors, parce que finalement, il ne pouvait plus supporter cette richesse non-philistine au milieu d'eux. Et le même problème qu'aujourd'hui, d'une certaine manière. Et donc, oui, il avait les deux dimensions, Yitzhak, la dimension matérielle très très forte, et la dimension spirituelle. Donc, mes amis, on a à peine commencé le cours, il nous reste une demi-heure. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Pourquoi le Mashiach s'appelle Mashiach ben Yitzhak ? Parce qu'en vérité, depuis le début de la création, ce que Hachem attend de nous, c'est de retrouver l'homme authentique. Et l'homme authentique est celui qui est complètement investi dans ce monde, qui a des tentations et des épreuves inimaginables, mais qui ne tombe jamais. Maintenant, vous allez comprendre, c'est un petit peu délicat comme sujet, mais vous allez comprendre maintenant pourquoi Hachem a choisi de faire avec nous l'alliance dans la partie du corps la plus faible et la plus matérialiste de tout le corps humain. C'est-à-dire la partie du corps qui fait tomber l'humanité tout entière depuis le début de la création. Pourquoi ? Je veux dire, je comprends pas le bon Dieu. T'as pas, je sais pas, dis-moi l'œil, dis-moi l'oreille, dis-moi la bouche avec laquelle on étudie la Torah, avec laquelle on prie. Mais pourquoi tu vas créer l'alliance à cet endroit-là ? C'est nul ! Franchement. C'est nul. C'est un petit peu bizarre pour le bon Dieu, donc quand même, non ? Mais il y a un secret à en pleurer, mes amis, quand on sait le décrypter. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, Hachem ? D'accord ? Je t'interdis pas de profiter de ce monde. Je t'interdis pas d'être un homme. Je t'interdis pas d'être un homme. D'accord ? Je t'ai pas créé dans ce monde pour que tu sois un ascète tibétain ou un moine ou un rabbin. Je t'ai pas créé dans ce monde pour que tu te dises ce monde c'est le monde du Satan. Non, pas du tout. Je t'ai créé dans ce monde pour que tu t'investisses dans ce monde. Et particulièrement cette partie du corps est la partie qui est la plus dangereuse dans le corps humain. Mais c'est là que je veux mon alliance avec toi. Ça veut dire quoi ? Je veux que malgré le fait que tu vives dans ce monde comme un véritable être humain, tu ne m'oublies jamais. Ça veut dire que je te demande d'être propre dans ce domaine. Je veux mon alliance là-bas parce que je veux que tu te serves de cet endroit. Je ne veux pas que tu sois un curé. D'accord ? Absolument pas, puisque sinon je ne t'aurais pas créé avec cette partie de ce corps. Mais par contre, je veux que tu sois propre avec cet endroit. Je veux que tu sois propre. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde. Parce que si d'un autre côté, je comprends que si Hachem fait avec moi l'alliance à cet endroit-là, c'est comme s'il m'envoyait une allusion comme quoi je ne t'interdis pas d'être un être humain. Et par contre, ne m'oublie jamais. Ça veut dire sois propre avec cette partie du corps. Sois propre. J'ai pas dit sois un saint. J'ai pas dit sois un tibétain. J'ai pas dit ça. D'accord ? Sois propre avec cette partie du corps. C'est ce fameux midrash quand Hachem a voulu créer l'homme. Deux anges sont venus, lui ont dit ne crée pas l'homme, il fautera. D'accord ? Et Hachem leur a dit si vous étiez à sa place, vous fauteriez encore plus que lui. Et c'est eux qui ont amené le Maboul, la perversion sexuelle totale. C'est eux qui, quand ils sont descendus dans ce monde et ont pris une forme humaine, c'est eux qui ont amené le Maboul. Comme on le sait, c'est deux anges déchus qu'on appelle les Néphilim dans la Torah. Et pourquoi ? Je l'ai expliqué, je crois, aussi par allusion dans le dernier cours. Parce que comme ils étaient tout en haut, quand ils sont descendus tout en bas, ils ont explosé. Parce que c'est ça les extrêmes. Si je vis toute ma vie dans un couvent, que ce soit un couvent juif ou un couvent non-juif, peu importe, mais je dis exprès un couvent, ça veut dire enfermé entre quatre murs d'un fantasme spirituel. Et tout d'un coup, je sors et je vois ce que je vois. Mais je ne peux pas tenir le coup, puisque je n'ai jamais été préparé à tenir le coup face à tout ce que je vois. Donc automatiquement, je vais tomber encore plus qu'un homme qui est plus ou moins entre les deux. Et c'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, malheureusement, ça il ne faut pas le dire, mais on entend tous les jours, dans toutes les religions, des gens qu'on pensait être tout en haut, qu'on va percevoir, ce sont des homos, des pédophiles, des débauchés, des trucs et des machins. Dafka chez les religieux. Pourquoi? Parce que comme ils ne se sont jamais préparés à être face à ce monde, dès qu'ils ouvrent les yeux sur ce monde, ils tombent complètement. C'est le cas de ces deux anges.
Concernant Israël, comment ça serait que Dieu ait parlé à sa femme, Rivka, et non pas à lui, concernant donc Yaakov?
Alors, vous savez quoi, ça sera le prochain cours. Enfin, quand on arrivera à cette paracha, on va en reparler justement. Et vous me le rappellerez au début du cours, d'accord? Mais là, ça va nous éloigner trop. Donc, on comprend donc que qu'est-ce que c'est un homme authentique? Celui qui est Kovesh et Yitzro. Je ne fuis pas le Yetzer Hara, mais je ne le laisse pas être mon dirigeant. C'est moi qui le dirige, c'est pas lui qui le dirige. Et donc c'est pour ça que j'ai expliqué que cette histoire de la circoncision, d'ailleurs je vous le dis clairement, et je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas le premier à le dire, c'est écrit depuis des millénaires, au moment de la délivrance finale, tous les hommes du monde entier se circonciront, parce qu'ils comprendront le véritable message de la circoncision. Être dans ce monde, mais être propre dans ce monde. C'est ça le message de la circoncision. Et donc, la circoncision, d'ailleurs, Maïmonide, le Rambam, fait déjà une allusion à ça, qui dit que même aujourd'hui, un non-juif qui se circoncit fait une mitzvah. Ça veut dire que d'une certaine manière, il accomplit un commandement de Dieu. Beaucoup de commentaires sont contre lui et lui disent « Comment tu peux dire ça ? Mais la Brit Mila a été donnée aux juifs, pas aux non-juifs. » Mais il n'a pas changé son avis. En vérité, il fait allusion à ce que j'explique, il n'est pas le seul, comme quoi la circoncision, c'est quelque chose qui concerne l'humanité tout entière. Et vous savez l'une des plus grandes preuves qu'on a ? D'accord ? Il y a deux hommes qui sont nés directement circoncis. Au tout début, avant Abraham. Deux. Adam et Noar. Non, avant Abraham. Adam et Noar. Et nos commentaires posent une question, mais comment Noar a pu naître circoncis ? Pourtant, Noar, c'est le modèle des nations. On les appelle Bnei Noar. Pas moi, je l'appelle Bnei Adam, mais peu importe. Mais en tout cas... Bnei Noar. Alors comment Noar peut être né circoncis? Et beaucoup de commentaires disent de là une allusion au fait qu'au moment de la délivrance, tous les hommes des nations se circonciront aussi. Et cette mitzvah sera acceptée par le monde entier. Parce que tout le monde comprendra quelle est la symbolique de cette mitzvah. Je suis dans ce monde, c'est ce que représente cette partie du corps, mais je suis un homme propre. Et ça, comment? Shem, c'est possible que Shem est né Maoul aussi, mais Shem est né après Noar, vous avez raison. Mais Noar est le deuxième, il y a eu Adam, il y a eu Noar, ils sont nés circoncis. Qui? Moshe aussi est né circoncis, oui. Il y a eu plusieurs hommes qui sont nés circoncis, mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a des non-juifs qui naissent circoncis. Hein. On peut naître circoncis.
Parce que c'est sa femme qui l'a circoncis.
Qui? Non, elle a circoncis le fils de Moshe. Le fils de Moshe, pas Moshe lui-même. On continue, mes amis. Maintenant, je vais vous montrer dans cette paracha, il nous reste 20 minutes, je vais vous montrer certains points de folie dans cette même paracha. Qu'est-ce que c'est donc être un gibor? Eh bien, remontons à Abraham. Remontons à l'histoire d'Abraham et de Lot. Vous savez, comme disent nos maîtres, « Istakel beoraita ou bara alma ». Hachem se sert de la Torah pour donner des allusions à toute l'histoire humaine. Avram et Lot, disent nos maîtres, représentent les deux parties qu'il y a dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Avram représente le vrai juste, je ne dis pas le spirituel, parce qu'Avram n'est pas dans le sens déconnecté de ce monde, c'est tout le contraire, bien au contraire. Un homme qui, déjà avant la circoncision, avait ce potentiel de comprendre que la vraie spiritualité, c'est d'être dans ce monde et pas être déconnecté de ce monde. Mais par contre, Lot représente la dimension matérialiste, très terre-à-terre et parfois même très négative, qui existe jusqu'à aujourd'hui à l'intérieur du peuple juif. On a eu des Madoff, on a eu ci, on a eu ça, etc. Et il ne faut pas cacher la vérité. Je veux dire, le peuple juif, c'est pas, il ne sort pas de la cuisse de Jupiter. D'accord ? Il y a de tout dans notre peuple. Et Lot représente cette partie négative qui se trouve dans le peuple juif. La preuve, c'est que quand ils vont revenir d'Égypte avec une grande richesse, qu'est-ce que Lot fait ? D'accord ? Il cherche la jouissance et le fric. C'est ce qu'il cherche. Et quand il va trouver Sdom, il part là-bas. Qu'est-ce que dit Rashi ? Pourquoi il a choisi Sdom ? Parce que c'est l'endroit du znout et l'endroit de l'argent. Voilà. Et grâce à Dieu, dans toutes les générations, on a eu des juifs comme ça aussi. Il y en a un très célèbre en France, on ne citera pas son nom. Très bien. Comment ? Non, ça veut dire que c'est, le, c'est pas grâce à lui. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Laissez-moi expliquer. Ça veut dire que dès le départ, Hachem a créé dans le peuple juif ces deux forces. Une force négative, qui est, dont le premier modèle est Lot, puisque Avraham arrive en Eretz Israël avec Lot, et une force positive qui s'appelle Avraham. Maintenant, regardez. Regardez, et vous regarderez encore après moi, Rashi. Quand finalement ça ne va plus entre Avraham et Lot, et que Avraham dit à Lot, écoute, on se sépare. Mais regardez ce que dit Rashi. Rashi explique qu'Avraham dit à Lot, on ne peut pas vivre maintenant l'un à côté de l'autre, d'accord, mais sache que je ne veux pas m'éloigner de toi, je serai toujours à tes côtés pour venir et t'aider si tu as besoin de moi. Je ne te tourne pas le dos. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Parce que je veux dire, si seulement notre peuple était capable de lire la Torah comme on doit la lire. Qu'est-ce que lui dit Avraham ? C'est pas possible qu'on vive vraiment ensemble. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que tes bergers volent, je préfère, si jamais un soir je toque chez toi et que je te trouve avec trois prostituées dans la maison, je vais crever. Donc je sais que tu as une tendance à vouloir t'amuser. Donc je préfère qu'on se sépare. Mais d'un autre côté, sache que je suis toujours à tes côtés. Moi, je représente le monde spirituel authentique. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. On va le voir. D'accord ? Regardez, Rachid le dit explicitement. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend de là ce que devrait être le peuple juif. C'est vrai que dans le peuple juif, il y a des gens plus spirituels, plus etc. Et d'autres, on le sait jusqu'à aujourd'hui, en Israël et partout dans le monde, des gens qui sont tout en bas. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe dans tous les peuples et dans le nôtre aussi ? Ceux qui sont très spirituels regardent les matérialistes, les débauchés, les trucs comme des satans. Allez vous faire voir. Et qu'est-ce que dit Avraham à Lot ? Je t'abandonnerai jamais, mon frère. Plutôt mon fils, c'était son fils adoptif. D'accord ? Je ne peux pas vivre main dans la main avec toi, mais je suis toujours là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Qu'est-ce que Avraham nous enseigne ? C'est que le bien n'abandonne jamais le mal. Puisque le vrai bien, c'est le cours de la semaine dernière, mais aujourd'hui c'est la preuve explicite, c'est d'essayer de transformer le mal. D'essayer de faire sortir du mal, et on va le voir encore, on a encore un petit moment, de faire sortir du mal tout le bien qui est caché en lui. Et finalement, dites-moi, qui va sortir de Lot ? Qui va sortir de Lot ? Le Mashiach. Et avant lui, Ruth. Et avant lui, David, qui sont des descendants directs de Lot. Ça veut dire que le libérateur du monde sort de celui qui était au départ un homme corrompu. Et pourquoi Avraham lui a dit « je ne t'abandonnerai pas » ? Parce que Avraham savait que si je suis un homme bien, ma seule et unique préoccupation, c'est de m'occuper de ceux qui ne sont pas bien, pour sortir d'eux tout le bien caché qu'il y a en eux. Voilà. Et maintenant, bien sûr, à Kippour. D'accord. Et comme j'ai raconté souvent cette histoire, je vais très très vite, mais une histoire authentique. Un des élèves du Baal Shem Tov, qui était lui-même un très très grand rabbi, d'accord. Et on arrive à Yom Kippour, tous ses chassidim sont avec lui. C'est lui qui doit faire la prière, il est chazan. Et il commence pas. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Les élèves n'en peuvent plus. Il y en a un qui va le voir, il dit « Rabbi, pourquoi tu commences pas la prière ?» Il dit « Mais je peux pas, on n'a pas de fauteur parmi nous. » Et la première phrase qu'on dit le soir de Kippour, c'est que on doit avoir des fauteurs parmi nous. Alors, il y en a un qui dit, tu veux que j'aille t'en chercher un? Il dit, oui, dans le village d'en face, il y en a un, c'est une vraie crapule, allez le chercher. Il est parti le chercher, et quand il est revenu, c'est un juif complètement assimilé, complètement tout ce que vous voulez, lui, le rabbi, il l'a mis à côté de lui, il lui a dit, heureusement que t'es là, maintenant je peux commencer la prière. Mais qu'est-ce qu'on comprend, ce qui se cache de ça? C'est qu'un vrai peuple, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et chacun doit comprendre qu'il est là pour aider l'autre. C'est ça un vrai peuple. Et donc, à force de montrer à Lot qu'Abraham restait à ses côtés, ben de Lot est sorti le Mashiach. De Lot est sorti Ruth, de Lot est sorti David. Les personnages les plus incroyables de notre histoire. Ruth et David, jusqu'au Mashiach. C'est absolument incroyable. De Lot, un homme qui couche avec ses filles. De là vont sortir des lumières absolument incroyables. Incroyables. Mais ce n'est pas seulement ça. Alors là, sortez vos mouchoirs. Quand les quatre rois vont venir et vont faire prisonnier Lot, parce que comme nous dit Rashi, Lot était le sosie d'Abraham, et qu'en vérité, la véritable raison pour laquelle ils étaient venus, nous dit Rashi, dans ces quatre rois, il y avait Nimrod. Et ils étaient venus en prétextant que certains peuples ne payaient plus les impôts, etc., comme vous verrez dans Rashi. Mais en réalité, ce qu'ils voulaient, c'est capturer Abraham, parce qu'ils savaient que Abraham était celui qui allait faire le tikkun du monde. Et donc quand ils ont capturé Lot, ils ont cru qu'ils avaient entre leurs mains Abraham. Et qu'est-ce que Abraham, c'est? Attends, c'est des quatre rois d'une puissance incroyable. Abraham entend que son fils adoptif s'est fait prisonnier, il part en guerre contre eux avec combien de soldats? 318. Alors que eux sont des dizaines de milliers. Et il arrive à les vaincre. Quel est le message qu'on a de là, mes amis? Mais c'est à pleurer, j'ai mon cœur déchiré. Normalement, si tu étudies la Torah, que tu vois un texte pareil, qu'est-ce que tu comprends? Très bien, moi je suis religieux. Moi j'ai fait le choix d'être plus dans la spiritualité que dans la matérialité. C'est le choix d'Abraham, d'une certaine manière. Il est constamment avec Dieu. Mais quand une partie de son peuple se fait attaquer, et que cette partie de ce peuple qui se fait attaquer, ce n'est pas forcément ceux qui sont des modèles, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et il part en guerre pour sauver cette autre partie d'Israël. Traduit en français, qu'est-ce que tous les hommes de Torah devraient faire quand Israël est attaqué? Être le premier à prendre des armes et se battre avec leur peuple, pour leur peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça change beaucoup, mais non, nous, notre arme, c'est la Torah. Nous, notre arme, c'est la prière. On va prier pendant que vous vous faites massacrer. Très bien. Eh bien, voilà, la Torah dit tout le contraire. Abraham a pris avec lui ses 318 élèves. Il les a sortis de la yeshiva et il leur a dit, on va aller sauver l'autre partie de notre peuple. Et ils ont demandé, c'est qui, Lot? Quoi, tu veux te mettre en danger pour sauver Lot? Ce laïc, ce taré mental, tu veux le... Mais il a qu'à crever, c'est lui qui a choisi de partir à Sdom. Il a dit non. Parce que notre travail à nous, qui représentons le bien, c'est de donner notre vie pour sortir et transformer le mal.
Il y a une gamatria sur 318?
Oui, bien sûr. C'est une très très bonne question. Ben, c'est les trois lettres du mot Mashiach. Siyar, il manque juste le même. Le fameux siyar de Shem, Yafet et Ham, qui après le déluge, s'il avait eu un quatrième fils, il lui aurait donné un nom qui commence par Mem et on aurait eu Mashiach. 318 fait allusion, bien sûr, à siyar, trois lettres sur quatre de Mashiach, pour nous faire comprendre que l'attitude d'Abraham, qui est entre parenthèses un religieux, mais même quand la partie entre parenthèses négative de son peuple se fait attaquer, il sort, il devient un soldat, il se bat. Et il ne dit pas, non, nous, on va rester à l'Eshiva, on va étudier toute la journée, c'est comme ça qu'on va vous sauver. Non. Il sort avec son épée, il va se battre. Et quand Hachem voit ça, il lui fait des miracles au point que, finalement, ils vont arriver à vaincre les quatre rois. Il y a encore une autre histoire où on voit qu'Avram a tout compris comment un homme authentique doit se comporter, ne jamais tourner le dos au mal. Une autre histoire, eh bien, la naissance d'Ishmaël. Qui était Agar? C'était qui Agar à l'origine? Pas seulement une princesse, c'était THE princesse. C'était la fille de Pharaon. Quand il y a eu l'histoire que Pharaon il a capturé Sarah et qu'il y a eu tous les miracles et qu'il s'est rendu compte qui étaient Sarah et Abraham, il a été trouver sa fille et il lui a dit, ma fille, c'est un rachis explicite. Il lui a dit, ma fille, je préfère que tu sois une servante dans la maison d'Abraham plutôt qu'une princesse dans ma maison à moi. Aussi Pharaon qu'il était, qu'il avait voulu et il avait pris de force, bon, il ne savait pas que c'était sa femme, après il lui a rendu. Mais quoi qu'il en soit, toute femme belle qui passait, il la prenait, il l'amenait au palais. C'était ses occupations principales, comme on le voit avec Sarah. Il a compris qui étaient Abraham et Sarah. Il a dit à sa fille, je préfère que tu sois une servante chez eux qu'une princesse chez moi. C'était la fille de Pharaon. Et dites-moi, la fille de Pharaon, elle a mis au monde Ishmaël. Et qu'est-ce que nous dit Rachid dans cette paracha? Et on en reverra plus tard. Ishmaël, finalement, il a mal terminé sa vie ou il a bien terminé sa vie? Ishmaël a fait teshuva. C'est déjà dans notre paracha. Et l'une des raisons pour laquelle il a fait teshuva, c'est grâce à la bonne décision de son père. Parce que si elle s'était mariée avec un Égyptien, le fils qu'elle aurait eu n'aurait jamais fait teshuva. Mais en lui demandant de partir dans la maison d'Abraham, aussi méchant était-il, Pharaon, on sait qui c'est les pharaons, aussi méchant était-il, il a eu tout d'un coup une étincelle de bien qui lui est montée dans sa conscience, et c'est comme ça qu'il a sauvé et sa fille Agar, qui est appelée plus tard Ktora, Ktoret, elle est sainte comme la Ktoret, l'offrande la plus sainte de toutes les offrandes qu'on faisait au temple. Et son fils va faire une telle teshuva qu'au moment de sa mort, les mêmes mots qui sont utilisés par les plus grandes tzadikim qui sont morts dans la Torah, les mêmes mots sont utilisés pour la mort et l'enterrement de Ishmaël. Donc il a fait une teshuva absolue. Grâce à qui? Grâce à la prise de conscience de son père qui n'a duré que quelques secondes, mais qui prouve que même dans un homme comme Pharaon, il y a du bien. Il faut savoir le sortir. Et c'est pour ça que qu'est-ce que va faire Abraham? Malheureusement, mais après la mort de Sarah, il reprend qui? Il reprend Agar. Et il lui change son nom. Et il l'appelle Ketora. Et vous savez pourquoi? Parce que pendant les nombreuses décennies où elle était seule, elle a éduqué son fils. Elle n'est jamais retournée en Égypte pour redevenir une princesse. Elle n'a jamais été avec un seul homme. Elle savait qu'un jour, Abraham la reprendrait. Et quand Abraham a vu ça, il a vu Beruah HaKodesh, que cette femme-là, même qu'elle était divorcée et qu'elle avait le droit d'aller avec d'autres hommes, elle est restée fermée parce qu'elle savait qu'un jour elle reviendrait chez Abraham. À ce moment-là, Abraham lui a dit, je t'appelle plus Agar, je t'appelle Ktora, parce que tu es une sainte. Donc on voit que et la mère, et le fils qui va faire teshuva, et tout ça, ça a commencé par qui? Par Pharaon qui a eu tout d'un coup une prise de conscience et qui a dit à sa fille, tu vas avec eux, tu restes pas chez moi. Donc on voit que Abraham, lui aussi, avec Lot, avec Pharaon. Et dites-moi maintenant, juste encore une chose. Et la fille de Pharaon chez Abraham, ça vous fait penser à quelle autre fille de Pharaon? Batia qui a sauvé Moshe. Deux fois une fille de Pharaon. La fille de Pharaon qui devient l'épouse d'Abraham. La fille de Pharaon qui sauve Moshe et qui sauve le peuple juif. Donc franchement, d'accord? Arrêtons de dire que c'est Moshe qui a sauvé le peuple juif. Ça a commencé avec la fille de Pharaon. Parce que c'est elle qui a sauvé Moshe. Et qui après, c'est sûr que c'est lui qui nous sort d'Égypte. Mais sans l'intervention de Bithya, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Donc finalement, qui nous a sorti d'Égypte? Qui a créé le peuple juif? La fille du plus grand dictateur de la terre.
Hein?
Comment? Quoi?
Ninive.
Et après Pharaon Fatshuva, il va créer Ninive, oui. Oui, c'est incroyable qu'ils ont donné ce nom-là, les accords d'Abraham. Ouais. Oui. Vous savez, je vous signalerai, cher ami, que Yitzhak était l'arrière-grand-père de Amalek. Je vous signale que David a mis au monde un fils qui a voulu le tuer. Je vous signale que l'une des plus grandes crapules de l'histoire des rois d'Israël s'appelait Ménaché, dont son père Hizkiyahou a failli être le Mashiach. Donc cette histoire qu'un homme bien peut mettre au monde un enfant horrible, ou que parfois c'est le contraire, qu'un père pas bien comme Terah, qui a pris Avraham et qui l'a donné à Nimrod pour qu'il le jette dans la fournaise, peut mettre au monde un tzaddik absolument incroyable, ça c'est un sujet en soi. Mais on ne peut pas de là tirer une conséquence, puisqu'on n'a pratiquement pas un seul personnage biblique qui n'a pas eu des enfants ou des petits-enfants qui étaient de grandes crapules. Il ne faut pas enregistrer ce que je vais dire. Mais le premier grand idolâtre à l'époque de Yehoshua en Eretz Israël, qui est le premier qui a introduit des idoles en Eretz Israël, c'était le petit-fils de Moshe, le fils de Guirshon, Micha. Le petit-fils de Moshe a été le premier idolâtre en Eretz Israël, le petit-fils de Moshe. Faut pas l'enregistrer, ça. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'histoire des générations, un tzaddik peut mettre au monde un rachat peut mettre au monde un tzaddik. L'une des explications, c'est depuis le mélange qui s'est produit avec la faute d'Adam Harishon, où explique le Ari Akadosh, le bien est rentré dans le mal, et le mal est rentré dans le bien, et dans chaque bien il y a du mal, et dans chaque mal il y a du bien. Vous savez, aussi un exemple qui m'est douloureux et pénible, mais on le sait, on ne peut pas le nier. Vous savez combien d'enfants de nazis se sont convertis, sont arrivés en Israël et sont devenus des êtres extraordinaires? Quand ils ont appris ce que leurs parents avaient fait, ils avaient 12, 13 ans pendant la guerre. Et quand après ils sont arrivés à l'âge de 18, 20 ans, on a une histoire très célèbre avec un groupe de je ne sais combien de dizaines d'enfants de nazis qui sont arrivés à côté de Tibériade dans la ville qu'on appelle Migdal. Bon, ça remonte maintenant, c'était pratiquement dans les années 50. Ils se sont tous convertis et pratiquement toute la lignée, ce sont des gens croyants, pratiquants. On voit des photos des arrière-petits-enfants avec des péotes, pas Haridi, mais Datileoumi, Khardali, comme ça. Et même, je crois qu'il y en a certains qui sont devenus même Haridi. Mais en tout cas, tous, Shomrei Torah Mitzvot, tous des enfants de grands nazis. D'accord? On a cette histoire célèbre avec, j'ai déjà raconté des milliers de fois, avec, il y a un rave ici à Beit Vegan. Son père était officier dans les têtes de mort. Ça veut dire ceux qui, qu'il y ait les camps de concentration, en 38, 39, 40, 41, 42, partout où ils rentraient, il y avait des grandes fosses, babillards, etc. Et ils tuaient des milliers de juifs. Et le père de cet homme-là, c'était un des plus hauts gradés des SS tête de mort. Et son fils avait aussi 12, 13 ans pendant la guerre, il ne le savait pas. Son père, quand il rentrait, « Bonjour mes enfants, comment ça va ?» nanana. À 18 ans, il a appris ce que son père avait fait. Sans dire un mot, il est parti, sans dire à ses parents où il allait. Il était tellement écœuré d'avoir des parents comme ça. Il est parti au Canada. Là-bas, au Canada, il a fait des études de médecine. Il a rencontré des juifs là-bas et il a décidé de se convertir, mais en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël. Il est devenu un grand médecin. Mais en même temps, il a fait des études de Torah d'un très haut niveau et il est devenu rav et médecin. Et ses parents ne savaient pas où il était. Il avait changé de nom, etc. D'accord ? Et tous ses enfants, c'est des petits Aryens blonds aux yeux bleus. D'accord. Et lui, il est devenu Haridi, Dafka. Mais en même temps, médecin. Et après des années et des années et des années et des années, j'ai raconté cette histoire des milliers de fois, c'est lui qui la raconte pratiquement chaque Yom HaShoah, on l'entend à la radio, cette histoire. Et il a entendu que son père était mourant. Son père, entre-temps, avait été arrêté. Il avait fait, je crois, 10 ou 15 ans de prison pour ce qu'il avait fait, en Allemagne même. Et bon, il était sorti de prison, il était mourant. Et il demande à son rave, est-ce que je vais le voir ou je vais pas le voir avant de mourir? Pas pour l'embrasser, lui dire bonjour, bien sûr, mais pour qu'il sache que je suis devenu lui qui a tué des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui voient que son fils est devenu. Et le rave lui dit oui, tu vas le voir. Il a la chance d'arriver juste avant la mort de son père. Il rentre à l'hôpital, d'accord. Et le père le voit. Il est arrivé avec un ou deux de ses grands enfants qui étaient déjà des adolescents. Avec péote et tout. Et le père le voit tout de suite, il le reconnaît. Et ils n'ont pas le temps d'avoir un échange, mais comme ça, il raconte à la radio. Et il y a une larme qui est montée aux yeux de son père. Et il s'est éteint. Et lui-même, il rajoute, je ne sais pas si la larme, ouais, c'était une larme de tristesse que ouais, je suis devenu un youpin, ou une larme de regret, comment j'ai pu faire des horreurs pareilles? Ça, il ne sait pas, parce qu'il n'a pas eu le temps de demander à son père. Mais c'est des exemples parmi des milliers. Vous savez, si je ne me trompe pas, la nièce de Himmler est arrivée en Israël après la guerre. La nièce de Himmler et s'est convertie elle aussi. Ça veut dire qu'il y a eu, de ce peuple-là, malgré tout, sont sortis des tas de gens qui, quand ils ont pris conscience de ce que leurs parents avaient fait, on dit non, ben nous, on va maintenant aider ce peuple à se reconstruire. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là toujours le même principe. C'est que finalement, même dans le mal absolu, parce que plus mal absolu que le nazisme, on ne peut pas trouver, et bien même de là peuvent sortir des étincelles de lumière qui vont devenir après des gens. C'est dur à dire, mais on le sait, c'est des faits, je veux dire, incontournables. Et ça, encore une fois, c'est le symbole de la Brit Mila. Hachem dit, moi je veux mon alliance dans l'endroit le plus meurtrier du corps humain. Parce que c'est ça ce que je vous demande. Je vous demande d'être dans ce monde afin de le changer. Parce que si vous êtes dans ce monde et que vous ne le changez pas, ou vous êtes à l'extérieur de ce monde, alors qui va s'occuper de mon monde? Et c'est ça un homme authentique. Et c'est ça le grand message de cette paracha. Comme on voit avec Lot, comme on voit avec la fille de Pharaon, comme on voit avec quantité d'autres histoires dans cette paracha. Que le maître du monde nous aide, Bezrat Hashem, à être des hommes authentiques. Oui, une question encore.
Vous avez dit que Lot a choisi d'aller à Sodom. C'est pas du tout ça. Parce que Lot, Avram lui dit, on doit se séparer parce qu'on est trop grand.
Oui.
Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Tout le monde est en face de toi. Et alors, Lot, qui avait baissé comme ça, devant une situation pareille, un jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde par terre. Il a levé les yeux et qu'est-ce qu'il a vu?
Sodom.
Jéricho.
Oui.
Et les néons, il est allé là-bas.
Non, mais Rachid dit pas comme ça. Rachid dit qu'il a choisi Sodome. Oui, mais Rachid dit qu'il a choisi Sodome parce que ils étaient immensément riches, ouais. Les terres étaient très fertiles et parce que c'était un pays de sodomisation. C'est marqué clairement. Il a fait le choix pour le plaisir et l'argent. Rachid dit explicitement.
Comme notre pharaon, on peut citer également Cyrus et Trump.
Oui, bien sûr, Cyrus. Cyrus, qui était sur le plan personnel pas un grand modèle, mais il avait du bien en lui, et Trump bien évidemment aussi. Voilà mes amis, que des bonnes choses.